pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Alors, il y a de l'ambiance au festival de BD Boom, 34e édition. Je suis venue à la rencontre de la directrice d'une maison d'édition parisienne, Des Ronds dans l'eau. Bonjour Marie Moinard.
Bonjour.
Première question, est-ce que vous avez été à la tête de la création de cette maison d'édition?
Alors, je suis complètement à la tête de la création. J'ai fait ça toute seule, hein. Donc, je me suis lancée un beau jour en me disant que finalement, le monde du livre, c'était ce qui me passionnait le plus, que j'avais vraiment envie d'en faire. Et puis voilà, j'évoluais dans le milieu de la bande dessinée depuis quelques années. J'écrivais dans différents journaux sur les livres que je pouvais lire. Je participais à des festivals de bande dessinée en tant qu'organisatrice, en tant que lectrice, à différents niveaux, en tant qu'amie. Et puis c'est venu tout naturellement. Donc j'ai créé cette maison en 2004, toute seule.
Vous aviez déjà dans l'idée que ce serait destiné au jeune public?
Oui, parce que j'avais dans l'idée de faire de la bande dessinée, principalement. Et j'étais partagée, je voulais faire de la bande dessinée pour les enfants, donc la partie jeunesse qui est quand même une partie ardue. Et puis je voulais m'adresser aux ados adultes avec des questions de société, particulièrement des questions qui touchent les femmes.
Effectivement, ce qu'on peut remarquer dans vos publications, c'est que c'est des questions, effectivement, comme vous dites, sociétales, de front. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tabou. Parlez de tout.
Alors, je n'ai pas de tabou personnellement dans ma vie, ce qui me facilite les choses. Et donc, je ne dis pas que je ne prends pas de gants parfois pour parler d'un sujet d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que je peux parler de tout. Et donc, j'avais envie aussi de pouvoir parler de certains sujets qu'on cache, pas forcément qu'on cache, mais en tout cas dont on ne sait pas parler correctement, simplement, et particulièrement tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, aux violences faites aux enfants, aux violences sexuelles. Et donc je pensais que, vu ma facilité, moi, à penser à ces sujets-là, et à pouvoir en parler comme ça, entre amis, j'aurais pu restituer un peu cet ensemble comme ça, sous forme de BD. Et en fait, ça n'a pas été compliqué du tout. Effectivement, c'était facile à faire.
Et comment vous avez fédéré les auteurs autour de vous? Est-ce qu'ils ont été, elles ont été tout de suite emballées? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce que vous avez eu voilà, des difficultés ou des...
Alors, dans l'ensemble, ça a été plutôt facile. Pour donner quand même des chiffres, on est 70 auteurs. Sur l'intégralité des trois volumes, on a commencé à faire le premier volume, il a été publié en 2009, le deuxième en 2011 et le troisième, qui est le dernier pour l'instant, en 2013. Et sur l'ensemble de ces trois volumes, nous sommes 70 auteurs, hommes, femmes, scénaristes, dessinateurs, voire même coloristes uniquement. J'ai dû proposer à, sur les 70, j'ai dû proposer à 75 auteurs. Disons qu'il a dû y avoir à peu près 5 refus pour des questions de travail, pas assez de temps, une réserve sur la difficulté de traiter le sujet peut-être. Mais c'est tout. Dans l'ensemble, c'est vraiment une réaction extrêmement positive. Beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai été complètement rassurée. Et puis, autant les auteurs qui m'ont accompagnée ont reçu ma force et ma conviction, autant ils m'ont portée aussi, en m'apportant et leur talent et leur joie à faire ces bouquins engagés, comme on dit. Et ils étaient vraiment contents d'apporter leur pierre à l'édifice.
Quel accueil vous avez en général quand vous représentez vos ouvrages dans des lieux publics comme celui-ci? Est-ce que j'imagine qu'il y a des discussions très intéressantes qui peuvent se passer. Est-ce que aussi, par exemple, les chercheurs, les enseignants utilisent vos ouvrages pour parler d'un sujet? Parce que c'est vrai que c'est un bon support pour parler de sujets un peu difficiles, avec des enfants notamment.
Alors c'est un support qui est difficile pour les enfants de primaire, en dessous je dirais de 12 ans c'est compliqué, mais à partir de 12 ans on peut quand même traiter vraiment tout ce qui touche à la question du sexisme, sur la question du sexisme à la clé du harcèlement, à l'école, scolaire, qui se poursuit dans la rue plus tard, Toutes ces questions-là, on peut en parler avec les plus jeunes. Évidemment, dès qu'on aborde d'autres questions comme celle de l'excision, je ne peux pas en parler avec les cinquièmes. Mais énormément d'enseignants, d'encadrants se sont emparés de ce livre-là. Moi, je travaille beaucoup avec les scolaires, mais on travaille aussi beaucoup avec les associations de femmes battues, par exemple. Il m'est arrivé d'intervenir en conférence avec des médecins, des encadrants, des éducateurs, voilà, des hôpitaux qui achètent les livres aussi pour mettre dans les salles d'attente, des sexologues, des psychiatres qui les mettent dans la salle d'attente. Et alors, il y a plein de buts. Ça libère la parole, ça permet de se décontracter, ça permet d'échanger, ça permet de poser des questions, puis ça permet aussi pour les victimes qui n'ont pas encore complètement compris qu'elles étaient des victimes, de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, de considérer qu'elles sont victimes, et donc de commencer à s'interroger, peut-être à commencer à faire une démarche, peut-être à commencer à en parler à sa famille proche, enfin essayer de sortir de l'isolement. Donc oui, ça sert vraiment sur énormément de public. Et en salon, dans l'ensemble, c'est plutôt très bien reçu. On a plein de gens qui sont étonnés, qui nous disent on ne connaissait pas, c'est vraiment bien, voilà, donc on va s'en servir. On va. Et puis il y a aussi des déclenchements de réactions qui sont très douloureuses pour moi, parce que j'ai en face de moi des gens qui se mettent à pleurer et qui sont dans une grande souffrance. Et c'est vrai que, voilà, alors évidemment ça permet de libérer la parole, c'était l'idée, mais c'est pas toujours évident de le recevoir dans un salon, parce qu'il y a plein de bruit, il y a plein de gens, c'est pas le lieu idéal.
Vous pouvez nous parler de cette série, on peut appeler ça comme ça, la série « En chemin et la rencontre ». Vous avez publié combien d'albums et de quoi ça parle ?
Alors, il y a 3 albums pour l'instant et une exposition. L'exposition, c'est une expo itinérante. Donc, en fait, on peut la louer, elle peut aller dans les collèges, elle peut aller dans les médiathèques, elle peut aller un peu partout où on veut. Elle a été au salon d'étudiants, elle a été dans une galerie de centre commercial, Femmes solidaires s'en était emparée, et voilà. Donc, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. Et les livres traitent une trentaine de sujets différents sous le thème global des violences faites aux femmes en France, principalement, et aussi un petit peu dans le monde. Alors principalement en France, parce qu'on va aborder la question des statistiques, des lois sur les codes français. Donc, on parle par exemple du lynchage des femmes à Hassim et Saoud en Algérie, avec un récit de Jacques Ferrandez qui nous permet d'aborder d'autres endroits du monde. On a parlé Aïcha Ibrahim du Hulot, une jeune femme qui a été lapidée à 13 ans. Et donc là, ça ne se passait pas non plus en France. Et d'ailleurs, ce n'est pas une histoire, c'est malheureusement la vraie histoire de cette jeune femme, avec un communiqué de presse de Amnesty International. Amnesty International qui est coéditeur avec nous sur l'intégralité des 3 volumes. Voilà, donc on traite la question du viol, de la violence conjugale, on parle du viol comme arme de guerre, on parle de l'excision, je le disais tout à l'heure. On a abordé la lapidation, malheureusement, c'est des sujets difficiles. Hein. Le mariage forcé, le crime dit d'honneur. Alors je dis bien le crime dit d'honneur, parce que crime d'honneur, on ne comprend pas comment ça peut être possible. Évidemment, toute la question du sexisme, la violence psychologique aussi, l'emprise. Le stress post-traumatique est un sujet très important et qui permet aux victimes de bien comprendre qu'elles ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent. Et puis aussi de commencer à une reconstruction, de pouvoir repartir dans la vie avec une thérapie qui fonctionne très bien. Et puis tout ce qui va être inégalité dans les salaires, la question du plafond de verre, le sexisme dans la sphère politique, les postes de pouvoir, par exemple dans les sociétés aussi du CAC 40, toutes ces injustices qui font que les femmes sont tout le temps reléguées au second, troisième, quatrième plan. Donc les femmes, on sait bien ce que c'est, mais enfin on ne les voit pas. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est des vraies violences. Ne pas exister, c'est une vraie violence.
Et j'y pense là comme ça. Ça résonne particulièrement chez vous, peut-être l'actualité en ce moment, avec toute cette, entre guillemets, libération de la parole des femmes.
Alors ça me, surtout pour l'instant, m'apporte une grande joie. Parce qu'évidemment, la parole des femmes qui se libère autant, on pense que d'un point de vue sociologie, on assiste à un vrai tournant. Enfin, alors ça c'est vraiment formidable. Maintenant, c'est l'après qui va être intéressant. Est-ce que les choses vont vraiment bouger ? Est-ce que les politiques vont s'en emparer ? Est-ce que les lois vont être appliquées ? Parce que des lois, il y en a. Hein. Des lois sur la parité, des lois sur l'égalité, elles existent. Simplement, elles ne sont pas appliquées. Il n'y a pas de condamnation, alors c'est compliqué. Donc ça m'apporte quand même une grande joie, évidemment, avec les réserves qu'il se doit, Mais quand même, là, je suis très optimiste, je suis enthousiaste de voir toutes ces femmes toutes ensemble se lever, faire front. Ça fait plaisir. Voilà, bon, moi, ça résonne particulièrement enfin, de cette façon. Mais sinon, compte tenu que je travaille sur cette question-là en permanence, pour moi, c'est mon quotidien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication ? Ça fait longtemps que vous venez à BD Boom ?
Alors, ça doit faire 5 ans. Donc, c'est pas très, très ancien.
Vous faites des interventions à la maison de la BD de Blois. C'est pas la première que vous faites, hein ?
Alors, si, j'en ai fait une seule. L'année dernière, au moment du 8 mars, en fait, pour justement parler de ces livres-là et de ce qu'on fait chez Des Ronds dans l'eau en faveur de cette question-là avec et les jeunes scolaires. Et d'ailleurs, cette année, à la maison Bégon à Blois, il y a l'exposition En chemin à la rencontre.
Comment se passe une réunion éditoriale en fait dans les Ronds dans l'eau ? Et votre équipe, c'est qui ? C'est comment vous faites ? Comment vous travaillez ?
Alors, des Ronds dans l'eau, c'est une très petite structure, donc nous sommes que deux. Donc nous ne sommes que deux et nous travaillons beaucoup. Après, on travaille aussi avec des personnes extérieures. On a un imprimeur, on a une maquettiste. Voilà, on avait un attaché de presse. On essaie de travailler quand même avec pas mal de personnes autour de nous. On pose beaucoup de questions. On montre nos livres à notre diffuseur, à des amis qui nous donnent leurs avis aussi. Et puis, malgré tout, on en parle beaucoup entre nous. Maintenant, pour ce qui concerne En chemin à la rencontre, évidemment, on ne s'est jamais réunis à 70, ce qui est très dommage. Ça aurait pu être quelque chose d'assez formidable. Mais en 2011, pour la sortie du volume 2, on avait réussi à organiser une exposition des planches originales et la participation il y avait au moins... je ne me souviens plus exactement, mais au moins 12-15 auteurs du livre. C'était au siège d'Amnesty International à Paris. Et on avait fait une conférence aussi. Il y avait des associations qui étaient venues. Donc c'était assez formidable quand même. Mais c'est évidemment assez rare parce que, bien sûr, on arrive de tous les coins de France, même voire de pays étrangers. C'est très compliqué.
Concernant vos auteurs et également les auteurs qui travaillent avec vous, c'est plutôt des gens fidèles ou c'est plutôt il y a des gens de passage, il y a les deux, comment ça se passe ?
Alors il y a les deux, il y a des gens fidèles. Alors je pense à Robin Walter qui est là sur le stand qui vient d'arriver. Il a démarré avec nous et il est toujours avec nous. Donc c'est évidemment un vrai bonheur parce qu'on construit avec lui sa carrière, sa bibliographie. C'est très agréable parce que c'est aussi quelqu'un avec qui on a un libre-échange absolu. On se connaît bien maintenant. Et puis bon, bah, d'autres hein, quand même qui ont publié plusieurs bouquins. Et puis des gens de passage avec qui ça se passe très très bien et qui ont ensuite la chance de pouvoir être publiés par des gros éditeurs. Et auquel cas, bah, évidemment, ça nous fait quand même plaisir. On aurait bien aimé les garder, mais enfin, ça nous fait plaisir quand même.
Marie Monard, merci beaucoup. C'est bien que vous existiez. Donc, je vous souhaite un excellent week-end sur le festival BD Boom. Du vent dans les pages sur Studio Zef. Alors après Les Ronds dans l'eau, me voici sur le stand des éditions Bill Bocquet. Bill Bocquet, une petite maison d'édition de Vineuil. Oui, oui, on reste dans le Blaisois. Je suis en compagnie de Julie Daudin. Alors Julie, à quel moment vous avez eu ce poste aux éditions Bill Bocquet ? Vous m'avez dit en 2013 ?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai repris le poste d'éditrice en 2013 et je revenais de Paris. Et donc, on m'a proposé ce poste que j'ai repris à ce moment-là.
Ce sont des éditions qui sont destinées au jeune public. De quel âge à quel âge ?
Alors, les éditions Bill Bocquet, c'est vrai qu'on est exclusivement jeunesse. On publie 20 albums par an, on en a 200 titres au catalogue. Et on fait des albums à partir de 3 ans jusqu'à 9 ans, à peu près.
Des albums, vous faites un partenariat avec combien d'auteurs à peu près ? Vous avez à peu près des chiffres ?
Alors des chiffres, ça dépend parce qu'il y a, en fait voilà, quand je dis qu'il y a 200 titres au catalogue, c'est pas forcément 400 auteurs-illustrateurs, il y en a beaucoup qui sont auteurs-illustrateurs et il y en a des binômes avec lesquels on travaille régulièrement. Donc on a une base de données d'environ 150 auteurs-illustrateurs.
Vous avez des auteurs qui viennent un petit peu de partout ou c'est, ça reste aussi local?
Alors non, là pour le coup, on va vraiment chercher large et que ce soit des gens connus ou pas connus d'ailleurs, parce qu'on est aussi une espèce de couveuse de jeunes illustrateurs ou de jeunes auteurs, des gens qui n'avaient jamais publié. Donc là, on va chercher assez loin et large parce qu'on va chercher aussi des gens qui n'étaient pas du milieu de l'édition à la base.
Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les sujets, les différents sujets que vous abordez pour le public jeunesse et la manière, disons, est-ce que vous avez une espèce de ligne éditoriale? Est-ce que vous avez des exigences? Voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu tout cela.
Alors oui, chez Bilboquet, on est très, très exigeant parce qu'on a une ligne éditoriale assez, assez marquée. On cherche à apporter en fait des messages de valeur dans nos textes, des messages assez forts. Parfois, on traite du racisme, de la différence, c'est l'apprentissage de la vie, de beaucoup de notions en fait, et des valeurs qui soient extrêmement classiques comme le bien, le mal, ou que ça aille bien plus loin, parce qu'on a sorti d'ailleurs en janvier un livre qui s'appelle « Dis, c'est quoi un attentat ?». Donc on va vraiment sur des sujets qui ne sont pas forcément faciles. On parle du deuil, on parle de la perte en général. Voilà. Donc notre champ d'action, il est assez large au niveau des messages. Mais généralement, il faut qu'il soit porteur de valeur. Et à côté de ça, on va chercher des illustrateurs aussi, et des illustrations qui ont du sens et du fond. On essaie d'avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif au niveau que ce soit du message ou des illustrations.
C'est des sujets difficiles, mais ce sont des sujets aussi d'actualité. Que vous avez perçu une sensibilité particulière à la lecture voilà, chez certaines personnes? Est-ce que ça a provoqué des réactions, des débats, voire même plus?
Alors, quand on sort un titre en général, qui sont souvent porteurs de messages, la réaction souvent des parents, alors qui n'est pas souvent, non, qui peut avoir, les parents nous disent « Ah oui, mais mon enfant, il va pas comprendre ça ou j'ai pas envie de lui parler de ça ». En fait, je pars du principe que les enfants, on les met dans du coton et qu'on ne leur parle pas de certaines choses parce que nous en tant qu'adultes, on a des filtres. On a un ressenti qui fait qu'on va considérer que c'est trop agressif, c'est trop difficile pour un enfant d'entendre telle ou telle histoire, d'aborder tel ou tel sujet. Or, les enfants, ils sont des vraies éponges. Ils comprennent tout. Ils entendent tout. Et donc, si on ne leur apprend pas, si on ne leur donne pas les clés pour comprendre avec leurs propres mots, et donc c'est pour ça, via des histoires, via des contes, on ne leur donne pas les armes pour plus tard avoir l'esprit critique ou avoir la prise de distance par rapport à un événement ou un sujet ou la perte ou autre. Et donc en fait, c'est pour ça que chez Bilboquet, on ne met pas les enfants dans du coton. On leur dit les choses, on leur parle avec des messages que ce soit de l'actualité ou des choses qu'ils vont devoir traverser ou ils vont être confrontés dans leur vie, mais au plus jeune âge. Quand ils se retrouvent avec un petit enfant réfugié politique dans leur école et qu'on leur dit que c'est un sans-papier, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un sans-papier. On a un livre sur ce sujet parce qu'un enfant, il dit « Mais c'est quoi? C'est quel papier qui te manque? Je t'en donne des papiers, moi j'ai des papiers de bonbons, j'ai des papiers... » Ben, bien sûr, mais si on lui donne pas ces clés-là, l'enfant, il voit ça avec ses filtres à lui, qui sont d'une naïveté et puis d'une ouverture d'esprit que nous, on n'a plus aujourd'hui en tant qu'adultes, parce qu'on y met nos vécus et nos casseroles d'ailleurs derrière. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des titres qui abordent ce genre de choses.
Et alors, si je comprends bien, donc les vertus pédagogiques donc, que vous mettez en avant aux éditions Bilboquet servent aussi peut-être aux enseignants?
En fait, oui, on essaie justement d'apporter des textes qui permettent d'ouvrir le dialogue avec l'enfant, que ce soit en classe ou avec les parents. Quand on a sorti « Dis, c'est quoi un attentat ?», on a eu des levées de boucliers. Il y a eu vraiment deux réactions très différentes. La majeure partie des gens ont apprécié qu'on sorte un livre pour les tout-petits pour parler des attentats, parce que personne n'osait en parler pour les tout-petits. Et il y a eu des réactions extrêmement, des levées de boucliers. On ne veut pas en parler, l'enfant n'a pas à savoir ce que l'enfant voit. Quand on donne des clés comme ça aux instituteurs, comment réagir face à en cas d'attentat, comme on a aujourd'hui un exercice pour les incendies. Et donc, un instituteur qui doit aborder ça avec les enfants, il faut qu'il ait des outils. Donc, on essaie en tout cas d'apporter des livres qui permettent d'ouvrir le dialogue avec les parents comme avec les instituteurs.
Est-ce qu'il y a un ton particulier donné à ce genre de sujet un petit peu difficile? Est-ce que plutôt humoristique? Est-ce que c'est plutôt frontal? Est-ce que c'est mélangé? L'auteur est totalement libre.
Alors, des titres comme ça, que ce soit D'ici quoi un attentat ou même La petite casserole d'Anatole qui traite du handicap, des sujets qui sont vraiment assez complexes à traiter, on les traite de manière avec beaucoup de naïveté et de simplicité. Il n'y a pas d'humour, parce que je ne pense pas que ça fasse rire. Par contre, en revanche, ça va être d'une simplicité et d'une justesse qui permettent d'ouvrir le dialogue par rapport à ça et d'être dans de l'ouverture. Après, il y a des sujets qui sont... Bon, les sujets qu'on a traités avec humour, c'est d'autres choses, c'est plutôt le sentiment, c'est plutôt les émotions de l'enfant, c'est-à-dire la colère, où on va dédramatiser la colère, ou le bonheur, ou la timidité. Ça, oui, les sentiments, les émotions de l'enfant, on va les traiter avec humour pour dédramatiser. En revanche, les sujets qui sont beaucoup plus compliqués, on va les traiter avec simplicité et naïveté. C'est différent, voilà.
Alors, est-ce que vous avez des projets sur le feu, là, en ce moment ?
Oui, on a beaucoup de projets, on a encore des textes assez forts qui arrivent sur 2018. Là, la fin de l'année est presque terminée et on a pas mal traité le deuil et l'au-delà cette année. L'année prochaine, on a des très très beaux ouvrages.
Merci beaucoup Julie et très bonne continuation. Bon week-end sur le festival BD Boom.